Et c'est une chef d'orchestre comme la France en compte encore peu, puisqu'on s'évertue à répéter ces chiffres éloquents. 3% seulement des chefs d'orchestre en France sont des femmes. Elle a grandi dans la musique, a fait ses études au Conservatoire National de Musique de Paris, où elle a obtenu 3 premiers prix en clavecin, en basse continue, en musique de chambre. Elle est partie ensuite en Espagne pour se former à la direction d'orchestre, où elle a remporté un prix international de direction d'orchestre. Autrement dit, elle n'a pas démérité, mais cela ne l'empêche pas. Elle est depuis hier soir et ce week-end encore à l'Opéra Royal de Versailles pour diriger l'orchestre symphonique de Scadi dans la création de Marie-Antoinette sur des symphonies de Haydn. Mélanie Lévy-Thibault, c'était la première hier soir de cette Marie-Antoinette sur un ballet de Thierry Malandin qui lui est bien vivant. Hein,
oui, il est en forme, Thierry.
Il est en très grande forme. Il se trouve que Marie-Antoinette adorait Haydn, donc oui. Tout est dans tout. Un mot de cette création et cette première, déjà, elle s'est bien passée hier soir. Vous êtes contente?
C'était extraordinaire, c'était magique. On n'entend pas tout sur scène dans les applaudissements. Il paraît que les gens tapaient du pied par terre. Donc, non, c'était vraiment très, très beau. Et il y avait une excitation de tous d'arriver dans cet opéra. Moi, c'était la première fois que je dirigeais là-bas, donc c'était une consécration. Et quand je suis rentrée dans la fosse, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais quand même, Lully a dirigé là, quoi. Donc c'est vrai que il y a les fantômes de Molière et de Lully et de Louis XIV dans le théâtre. C'est une évidence. Hein. L'arrivée dans la fosse est incroyable. On passe par les cintres, on passe par des endroits. On dirait qu'on va aux oubliettes, en fait. Et tout d'un coup, on arrive par la salle. On n'arrive pas par une fosse parce que la porte est trop basse, en fait. La porte est trop petite. C'est assez, c'était magique, vraiment.
C'est particulier aussi de diriger un ballet. Vous n'avez pas forcément l'habitude de diriger des ballets, si?
Oui, alors non, j'ai pas l'habitude et c'est ce qui dérange beaucoup dans ma carrière en France, en réalité.
Ah bon?
C'est que je me refuse à être chef de ballet ou chef d'opéra ou chef de symphonique ou
chef tout court
de musique contemporaine. J'estime que je sais lire la musique. Après, bien sûr, je vais avoir des affinités avec certains styles, avec certains courants aussi. Mais en réalité, je sais lire la musique, donc je peux tout faire et je suis à l'écoute d'un metteur en scène, d'un chorégraphe, d'un réalisateur. Et la rencontre avec Thierry a été extraordinaire.
De quel point de vue?
D'abord, je l'ai beaucoup embêté. Je l'appelais tout le temps. Je dis, mais alors, dis-moi, envoie-moi des textes, envoie-moi des photos. Et il est extraordinaire parce qu'il répond dans le quart d'heure, Thierry. Donc, en fait, la relation s'est déjà instaurée d'un point de vue intellectuel. Et puis, quand on s'est rencontrés pour la première répétition, j'avais donc travaillé dans son esprit ces symphonies de Haydn. Il m'a dit, bon, Mélanie, nous, on est prêts au plateau. J'ai dit, moi aussi. Et on a fait un filage. En réalité, on s'est arrêté peut-être que 2 ou 3 fois. On a revu des choses après, mais ça... Bon, j'admirais son travail depuis longtemps, hein. Je connaissais son travail, et pour moi, c'était l'autre consécration, c'était de le rencontrer.
Hein. Dites donc, Mélanie Lévy-Thibault, il y a un sens politique caché à monter ce ballet sur Marie-Antoinette, ce spectacle, oui. En ce moment.
Là, c'est vrai que c'est tout à fait d'actualité, c'est assez extraordinaire. En plus, Thierry a pris vraiment certaines périodes de sa vie, dont les périodes de jeune femme délurée aussi, hein, qui aimait aller à l'Opéra de Paris parce qu'il y avait des bals masqués, et qu'elle pouvait aller masquée, parce que masquée, on peut faire plein de trucs dans les soirées. Donc ça, elle était vraiment... Elle essayait de dire au roi, mais allez, viens, on va s'amuser à Paris quand même, parce qu'à Versailles, c'était trop sérieux. Donc, mais nous, hier soir, à Versailles, c'était pas sérieux du tout. On a donné à Marie-Antoinette toute cette vie, toute cette folie qu'elle avait, et puis ses difficultés aussi, hein, avec un enfant mort, avec sa relation avec le roi, qui c'était des adolescents, et on leur mettait la pression sur leurs actes amoureux aussi. Tout le monde était derrière la chambre à savoir si ça se passait bien ou pas. Donc, et il montre ça, Thierry, avec beaucoup de... une violence et une tendresse aussi, et il traite bien ce côté de l'adolescence, finalement, hein, d'une reine.
Avec la musique de Haydn. Quelle particularité, là, la musique des symphonies de Haydn?
Ah, la musique de Haydn, c'est mon premier contact avec Laurent Brunner, qui est directeur de l'Opéra de Versailles. Il était venu à Biarritz, il m'a dit « Oh, mais Haydn, là, c'est très très beau, c'est très fin ce que vous faites, mais il faut que ça pète quand même !» Je lui ai dit « Écoutez, on va mettre ça au clair tout de suite. » Alors, hier soir, on était enchantés de se voir et de reparler. Je lui ai dit « Parce que Haydn, pour moi, c'est comme la queue d'une tempête. » C'est-à-dire qu'il y a eu le baroque, et Haydn, il y a encore quelques bourrasques, quelques portes qui claquent, mais il ouvre vers un nouvel esthétique, vers un nouveau courant qui va être pour moi le plus grand de la musique, qui est le classicisme. Et il va mettre en place une des formes les plus savantes de la musique classique, qui est la forme sonate. Et il va être le père de la symphonie, il va être le père du quatuor à cordes. Et ça, c'est vraiment un nouveau courant stylistique. Alors, je sais qu'à Versailles, ils ont beaucoup d'orchestres baroques, beaucoup de chefs baroques. Je crois qu'on a présenté quelque chose de très empreint de classicisme. Et il était ravi hier soir, donc je pense que tout va bien.
Mélanie Lévy-Thiébaud, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, hein, puisque vous êtes fille de musicienne. Elle était compositrice.
Elle est toujours compositrice.
Graciane Finzi, c'est votre mère. C'est elle qui vous a poussé à la musique?
Alors oui et non, parce que dans les années 70, moi j'avais 6 ans, je voulais déjà être chef d'orchestre, merci de pas faire le calcul. Elle était en pleine recherche, qu'elle est toujours d'ailleurs, très avant-gardiste, donc moi j'entendais du Boulez, du Xenakis, du Stockhausen, et je dis, écoute maman, ta musique, toi et tes copains, elle est vraiment pas belle, il vaut mieux écouter du Mozart.
Vous disiez ça à 6 ans, quand vous étiez sur un tabouret enfermé dans votre chambre à diriger des
orchestres.
Elle
vous le rappellerait, parce que je pestais contre toute cette musique contemporaine que j'adore maintenant et dans lequel justement je veux m'investir plus. Mais oui, elle m'offrait d'ailleurs des disques de Mozart, de Schubert. Je montais sur mon petit tabouret, je les mettais à fond et je dirigeais. Et je trouvais ça beaucoup, beaucoup plus enivrant que Boulez ou Xenakis.
Alors, on va écouter quand même un morceau composé par votre maman.
Ah bah oui, j'ai fait la création.
Ouais. Voilà, avec le cœur de Radio France, un morceau intitulé « Et nous le monde ».
Encore un jour, encore un beau jour, un horizon rouge, encore le vent qui pousse les dernières brumes, encore la ville s'éveille, les millions d'âmes, encore une sirène dans le lointain, encore le bruit doux des feuilles au-dessus de ma tête, crépitent les premiers pas dans le gravier, encore le chien qui renifle, arrose mes pieds de bronze scellé, encore le pigeon gris qui salit mes épaules, encore mon cœur qui bat fort dans ma poitrine, fait chavirer mon esprit et oublier mes pensées sombres en regardant le ciel noir immense qui s'illumine enfin. Encore je veux, encore et toujours j'ai voulu ça. Des millions de fois, encore les lueurs, les premières couleurs incandescentes, les toutes premières lumières des premiers instants du jour, le premier acte, le tout premier matin ad aeternam. Encore. Le monde.
Voilà un extrait du début de « Et nous, le monde » que vous avez dirigé. Donc, oui. Mélanie Lévy-Thiébaud, vous disiez que vous saviez lire la musique. Bien sûr, que vous savez non seulement lire la musique, mais que vous aimez les musiques très variées. Dans votre répertoire et dans ce que vous dirigez, effectivement, on peut aller du classique au très contemporain, à l'ultra contemporain. Vous n'avez pas de choix, pas de prédilection particulière?
C'est-à-dire que j'estime que quand on est chef d'orchestre, en fait, on dirige des sur-spécialistes. Nous, on n'est pas finalement les sur-spécialistes. On est comme le chef d'entreprise, moi qui fais pas mal de conférences en entreprise, on est le globalisant finalement du discours musical. Donc on n'a pas besoin d'avoir une technique spécifique pour jouer de la musique contemporaine ou un archet spécifique pour jouer de la musique baroque. Et c'est ça qui nous donne cette liberté. Mais je trouve que c'est pas assez entendu en France, ça. Et on nous catalogue vraiment chef de musique contemporaine. Chef de musique baroque, chef de ceci, de ballet, justement, chef de... On me demande, ah mais tu as déjà fait du ballet? Bah non, pas vraiment, oui, une ou deux fois, mais je m'abandonne aussi aux chorégraphes, aux metteurs en scène avec qui je travaille, et ça doit donner une liberté. Et donc oui, la musique contemporaine me passionne, et elle se lit comme l'autre musique, et s'il y a des nouvelles tablatures ou un nouveau mode d'emploi, ben, la chance c'est que le compositeur est vivant, on peut l'appeler, lui dire, écoute, tu m'expliques ton nouveau...
Oui, c'est plus facile.
Mais c'est plus facile, finalement, d'une certaine manière. Et ça, on ne se donne pas assez cette liberté, je trouve.
Quand on refuse les étiquettes, comme vous le faites, Mélanie Lévy-Thiébaud, et quand on est une femme musicienne en France qui rêve d'être chef d'orchestre, c'est plus difficile? C'est un parcours de combattante? Ou
ben,
pas?
Disons que je multiplie les difficultés, probablement. Alors, être femme, il aurait fallu que j'eusse été un homme dans une autre vie pour savoir si c'est plus difficile. Je ne vais pas dire oui, c'est plus difficile. Peut-être que d'autres disent, ben non, elle a moins de talent que d'autres. Ça, je peux pas le, le savoir. Mais c'est sûr qu'en disant je ne veux pas me cataloguer dans une étiquette, ça dérange parce qu'on ne sait pas où me mettre. Et ça, je pense que ça freine mon chemin, mais mon chemin n'est pas freiné par ma curiosité, justement. Donc en réalité, je ne peux pas faire autrement et je continuerai de me passionner pour le ballet, pour la musique baroque. Je suis claveciniste de formation, donc tout d'un coup, si je veux me mettre au clavecin quand je fais Don Giovanni pour faire les récitatifs, ah ben voilà, alors évidemment, je ne vais pas me faire du récital. Il faut après savoir, dans tout ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait bien. Je vais me mettre au clavecin pour du récitatif, mais je ne vais pas faire des récitals des Soins de Scarlatti, que j'ai joué il y a bien longtemps, mais dont voilà. Donc y a ça aussi, c'est savoir ce qu'on sait faire dans les différents domaines pour pouvoir le donner le meilleur de soi-même. Mais ça gêne un peu. Ah bah, bon, en France, on est assez. On catalogue, on a besoin de cataloguer les gens, hein. C'est peut-être bien d'ailleurs, je ne sais pas.
Le 7 mars dernier, vous avez pris la parole sur la parité homme-femme dans le cadre de la 6e édition du Printemps des Fameuses à Nantes. Ça veut dire que c'est quand même un sujet sur lequel vous vous engagez, la place des femmes dans la musique ?
Alors, pour être honnête, je ne m'y engageais pas du tout. Et depuis quelques temps, je me dis qu'il faut quand même faire quelque chose. Et puis qu'on me demandait pour ce genre de conférences et je refusais en disant « mais non, mais il faut avancer, c'est tout ce qui est important ». Et je continue de dire que l'important, c'est l'exemplarité finalement. C'est de dire « bah regardez finalement mon chemin, peut-être qu'il a été plus lent que d'autres, mais ça fait quand même 25 ans que je dirige, que je gagne ma vie avec ce métier ». Et puis d'être voilà de s'inscrire dans la durée, dans une joie aussi de faire ce métier malgré les difficultés, mais je prends quand même la parole maintenant parce que je ne suis et elles n'ont pas entendu toutes ces féministes forcément tout ce que j'ai dit, mais elles ont été d'accord, c'est-à-dire que j'ai pas été dans le sens du poil, mais j'arrive à dire ce que je veux, comme par exemple ce concours de chef d'orchestre qui a été organisé à la Philharmonie, mais je suis complètement contre. Alors, est-ce que je sais pas si j'ai le temps de développer,
si,
mais ça c'est
sûr.
Vraiment intéressant.
Rappelez-nous
parce que,
déjà ce que c'était.
Alors, la Philharmonie a organisé un concours de chef. Deux FE, S, d'orchestre, donc qui est dédié que aux femmes, donc forcément jeunes, puisqu'il y avait une limite d'âge. Ça part évidemment d'un très bon sentiment, parce que ça veut dire bah les jeunes femmes qui sont dans les cours de direction d'orchestre, elles n'ont pas de métier tout de suite, elles n'ont pas de poste tout de suite, mais les hommes aussi n'ont pas de poste tout de suite. Hein. Donc, on va leur faire passer un concours, et puis la gagnante, les gagnantes, les premières vont avoir un poste d'assistante à tel orchestre, un concert à diriger là, un scolaire. Moi, j'ai pas eu tout ça. Alors, évidemment, je suis un petit peu jalouse. Je me dis, ah ben non, mais il y a 25 ans quand même, on aurait pu me donner ce petit coup de pouce. J'aurais peut-être aimé le passer, ce concours. Et ben finalement, ça m'arrange d'avoir l'âge que j'ai parce que, évidemment, j'aurais été passer ce concours. Ben, ça m'arrange de pas aller le passer parce que je me dis, quand les hommes vont se réveiller, les jeunes hommes, et dire, comment? Elles ont un concours pour elles, qui leur donnent des postes, et nous, on n'a pas le droit de le passer. Par contre, elles viennent passer nos concours, qui évidemment sont mixtes. Là, il va y avoir un problème, quand même. C'est-à-dire que elles vont finalement être plus aidées, alors que le chemin, c'est aussi ça. C'est le sens de la quête, de l'effort, de la réflexion, de la maturité. C'est un métier de vieux, chef d'orchestre, en réalité. Hein. C'est un métier de vieux et de vieille. C'est un métier de maturité. Donc là, je ne sais pas comment elles vont porter ce fardeau, finalement. Un jour, elles vont entendre dire, ah oui, ben, t'as eu ce poste. Ah ben oui, c'est à la suite du concours de femme chef d'orchestre que tu as passé. Donc c'est lourd, je pense, pour elle.
Entend la Mélanie Lévy-Thibault.
Non, c'est un souvenir avec Déborah Nemtanou, ça.
La violoniste.
On était, oui, absolument, violoniste extraordinaire. On était en Roumanie et on faisait Digane de Ravel, entre autres choses dans le programme. Et elle a, Déborah, une joie de vivre déjà, mais une joie de jouer, une joie du violon qui est extraordinaire. L'orchestre était très bon et donc rien ne nous résistait. Et pendant le concert, on s'est fait plein de petits gags, de roubateaux, d'accélérations. Télérando l'une l'autre, à tel point qu'à un moment donné, on a éclaté de rire ensemble. On était dans un jeu comme deux petites filles qui jouent, à part que c'était quand même Zigane et que c'est difficile, et pour le chef, et surtout pour le violoniste, qu'elle joue magnifiquement. Donc c'est un très très beau souvenir, la rencontre avec Déborah. Ouais.
Comment dirigez-vous, vous, avec les mains, avec le regard, avec le corps, avec quoi?
Avec le cœur aussi, bien sûr, d'accord. Avec tout, avec la raison.
Et avec la tête, peut-être.
Bien sûr,
aussi,
avec la tête, on est une tour de contrôle, on est un scan extraordinaire. Moi, il y avait un autre métier que je voulais faire, c'était pilote de ligne. Et ce que je trouvais génial...
C'est pas tout à fait pareil.
Eh ben si, en fait. Ce que je trouvais génial dans le pilote de ligne, c'était pas tant pour faire décoller des avions. Je me disais, quand on est pilote, on enferme des gens dans un habitacle qui n'ont pas d'autre choix que de donner leur confiance au pilote. C'est ce qu'on fait avec un orchestre et c'est ce qu'on fait avec notre public. C'est-à-dire qu'on les enferme. Hier soir, on les a enfermés dans l'Opéra de Versailles. Il y avait juste les sorties de secours allumées.
Personne comme ça, ça n'avait pas très envie. Hein.
Et tout d'un coup, c'est abandonnez-vous à ce qu'on va vous montrer, à ce qu'on va faire. Mais l'orchestre aussi doit s'abandonner pour être vraiment à la main du pilote, à celui qui conduit. C'est pour ça que j'aime pas tellement le mot de diriger, parce qu'il est très sur le pouvoir.
En anglais, mais ça peut donner aussi un sentiment de puissance de diriger
que je n'aime
un orchestre.
Pas, ouais. Que je n'aime
c'est plutôt
pas,
la communion.
En fait. Oui, c'est la communion. Et puis en anglais, on dit conductor, c'est beaucoup plus beau. C'est conduire, c'est guider. Et le pilote, c'est ça, c'est piloter, c'est pas diriger. Et ça, j'aime beaucoup ça. Ce qui n'empêche que oui, on a le contrôle des choses. On a la puissance des choses, mais qu'on met au service d'une puissance d'un tout. Général. Et quand on est dans la fosse, c'est encore plus fort finalement que quand on fait du symphonique, parce qu'on est comme dans les entrailles d'un volcan. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça jaillit pour que le plateau puisse se donner à fond. Et ça, la relation là avec les danseurs, avec le ballet de Biarritz, avec Malandin, est extraordinaire. Parce qu'ils sentent vraiment ça. Et ils m'ont dit, mais ton énergie, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux, donc j'ai travaillé là-dessus beaucoup quand même.
Ça aide d'avoir fait des arts martiaux pour pouvoir diriger, conduire un orchestre. Quel maître avez-vous eu?
Alors moi,
en la matière.
Alors j'ai travaillé avec quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Dominique Balta et qui avec qui j'ai fait de l'aïkido, mais surtout du sabre.
Je parlais de la musique.
J'ai travaillé avec des gens extraordinaires au CNSM. Bon, j'étais élève de Véron Lacroix, de Laurence Boulay en basse continue. J'allais aux classes de chant de musique ancienne de William Christie où on se faisait hurler dessus. Alors je râlais, je disais bon moi je vais plus à la classe de Christie parce qu'il hurle. Si Mélanie allez-y parce qu'il apprend beaucoup de choses. C'était extraordinaire. J'ai appris des choses avec William Christie, mais formidable. Et puis, j'ai eu Maurice Bourg en musique de chambre. Donc ça a été... Pour moi, il y a eu un avant et un après Maurice Bourg. Quand j'ai passé mon prix de clavecin, je lui avais demandé d'aller jouer mon programme. Il s'était mis à côté de moi avec son hautbois. Il jouait du hautbois, il me disait « Fais pareil ». Je disais « Non, mais j'ai un clavecin, je peux pas faire pareil qu'avec un hautbois. Fais pareil !» Et je comprenais tout ce qu'était l'air, la respiration, la vitesse d'air, les attaques. Et faire la même chose avec un clavecin, c'est des cordes pincées avec des petits becs et avec l'air d'un hautbois. Et surtout, comment Maurice Bourg joue toujours, c'était extraordinaire. Et puis, bien sûr, Anthony Rosmarba, en direction d'orchestre, qui est un disciple de Tchéli Bidak. Et grâce à ça, j'ai eu la chance de rencontrer Tchéli Bidak. Donc, voilà, il y a eu des rencontres. Puis après, c'est des rencontres de musiciens. Hein. Michel Portal, par exemple. Ça a été pour moi quelque chose d'important.
Entre classique et jazz. Hein. Vous écoutez beaucoup de jazz.
Toujours. Moi, j'écoute beaucoup de jazz. J'écoute beaucoup de musique folk aussi. C'était mon époque. Hein. Graciane Finzi, malgré ses recherches avant-gardistes, elle écoutait beaucoup. Ils écoutaient Loussier, qui est décédé justement il y a pas longtemps. Ils écoutaient Santana, ils écoutaient Bob Dylan, voilà.
On en écoutera tout à l'heure.
Avec grand
après
plaisir,
les rappels des titres de l'actualité. Mélanie Lévy-Thiébaud, il est 7h30 sur France Culture. On vous retrouve dans 2 minutes. Mélanie Lévy-Thiébaud, chef d'orchestre, est avec nous ce matin. C'est notre invitée. Vous disiez, Mélanie Lévy-Thiébaud, tout à l'heure, que vous faisiez des conférences en entreprise. Est-ce que c'est par volonté de montrer qu'il y a des similitudes entre diriger un orchestre et diriger une équipe, par volonté de démocratiser la musique classique par différents moyens?
Absolument, c'est un moyen aussi. Alors en fait, l'association pour laquelle je travaille, qui est l'APM, Association Progrès du Management, n'appelle pas ça conférence, appelle très joliment ça rencontre. C'est comme diriger tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui me semble plus adapté à ce partage qu'on a dans nos discussions ou dans notre travail musical. Et je rencontre des numéro 1 d'entreprises français ou même étrangers. Et quand on parle de management, c'est vrai qu'on a un exemple de management avec les orchestres assez extraordinaire parce que on travaille avec des gens qui sont syndiqués, mais heureux, joyeux, fonctionnaires, qui pourtant sont des artistes. Mais donc c'est une micro-société, l'orchestre, qui est assez fabuleuse. Et on travaille aussi avec une équipe technique, avec une équipe administrative et le chef chef se meut dans tout cela, doit changer de costume quand il parle à l'équipe technique. Et ça, c'est un véritable exemple, à mon avis, de management. Et donc, on y trouve, voilà, une relation assez intéressante.
Et puis, vous passez d'un orchestre à un autre. Alors, justement, vous en avez dirigé plusieurs, des orchestres, oui. Avant de fonder le vôtre, Manifesto. Alors, j'ai deux questions avant de vous laisser la parole. Première question, combien sont-ils, les musiciens, dans votre orchestre?
Alors, on est à géométrie variable, donc de 15 à 55, voilà, selon les programmes.
Et deuxième question, parce que vous restez en l'air, deuxième question, c'est pourquoi avoir créé votre propre...
Alors là,
ensemble.
C'est pareil, je suis un peu à contre-courant. Ce qu'on entend en ce moment pour que les femmes dirigent, c'est elles sont obligées de créer leurs orchestres pour diriger. Bah, dommage qu'elles n'essayent pas justement de faire dans le sens que j'ai fait moi, c'est-à-dire que tant pis, j'ai eu des traversées du désert, certes, mais j'ai commencé, moi, par diriger, par être invitée dans les orchestres. Alors c'est vrai que peut-être j'ai eu de la chance, enfin je ne sais pas, après ce concours, j'ai été chef assistante et j'ai été chef adjointe à l'orchestre de Mulhouse. Ensuite, j'ai fait une rencontre tout à fait particulière, j'ai été le chef du cadre noir de Saumur, donc je partais avec eux diriger de grands orchestres, comme le Hong Kong Philharmonic Orchestra, alors que j'étais toute jeune, et ça m'a beaucoup médiatisée. Du coup, j'ai commencé finalement ma carrière en étant chef invité. Je vous le conseille, il y avait traversé du désert, hein, c'est sûr. Mais j'ai tenu pour ça, et seulement quand ça a commencé à marcher, en 2005, je me suis dit, bon, maintenant je peux monter mon orchestre, parce que quand je vais dans les orchestres, j'allais déjà beaucoup à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, que j'adore, et que je salue. Et c'est vrai que je disais, bon, alors j'aimerais faire ce programme, ah non Mélanie, notre thématique c'est ça, et puis non, là dans deux ans on fera ça. J'arrivais pas à faire mes propres programmes et à montrer l'art tel que je voulais le montrer au 20e, au 21e siècle. C'est pour ça que cet orchestre s'appelle Manifesto. C'est un manifeste de l'art tel que j'ai envie de le montrer maintenant.
Et vous êtes venu avec un CD en particulier, un enregistrement de vous, ouais. Conduisant l'orchestre Manifesto, Cavalleria Rusticana. Voilà, c'est un intermezzo avec l'orchestre Manifesto. Et en parallèle, vous développez une activité de ciné-concert.
Oh, ça j'adore. Ça j'adore parce que je pense que quand on est chef d'orchestre, on doit aussi être, enfin c'est ce que je pense, être un passeur, une passeuse. Un passeur, et c'est ça qui est intéressant. On ne crée pas comme les chorégraphes, comme les metteurs en scène, comme les réalisateurs, mais par contre, on passe les œuvres des autres. Et en cinéma muet, on est en train de perdre un patrimoine terrible. Par exemple, dans les studios Montreuil qui avaient brûlé, il reste à la Cinémathèque française 40 films. Dans ces 40 films, il y a sans doute des chefs-d'œuvre et qui ne sont pas renumérisés parce que ça coûte un certain prix. Donc, on ne refait pas des bandes-son dessus, etc. On ne les montre pas. Et les pellicules, le problème, sont en train de se désagréger. Et un de nos plus beaux films, qui est quand même Le Voyage dans la Lune de Méliès, si Lobster Film, et je salue Serge Brombert, n'avait pas fait ce travail, mais il m'a dit, quand j'ai ouvert la boîte où il y avait la pellicule, j'ai appelé vite, venez, la pellicule dans ses doigts était en train de se désagréger. Il fallait les liquides, toutes les potions magiques qu'il faut pour que ça tienne et pouvoir renumériser après. Donc, j'essaye de montrer des films qu'on ne connaît pas trop, de les faire renumériser, et je trouve que le ciné-concert, c'est-à-dire que c'est aussi un voyage dans la musique, parce que tellement de réalisateurs disent c'est 40% ou 50% du film. Hein. Spielberg en tête le dit avec John Williams. La petite histoire des Dents de la Mer, c'est que John Williams lui a dit, c'était leur première collaboration. Hein. John Williams lui a dit, venez chez moi, je vais vous jouer la musique des Dents de la Mer. Et il lui a joué pom, 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 pom. Spielberg a dit, attendez, ça va pas être ça la musique de mon film. Si, ça va être ça la musique de votre film. Et avec deux notes, il crée une signalétique de peur terrible. Donc ça, c'est passionnant à faire aussi.
Alors, vous n'êtes pas venu avec la musique du Voyage dans la Lune de Méliès, mais avec une musique de film, malgré tout, Over the Rainbow. Et comme vous nous disiez, Mélanie Lévy-Thiébaud, que vous aimiez beaucoup le jazz, c'est Art Tatum pour terminer. Thank you. Merci beaucoup Mélanie Lévy.
Merci
beau d'être venue nous voir ce matin. Alors vous serez ce soir et demain encore à l'Opéra Royal de Versailles pour cette Marie-Antoinette, création de Thierry Malandin. Mais alors c'est archi complet, on peut avoir des places au dernier moment, à la dernière minute, on peut tenter. Mais après sinon vous serez en mai à différents endroits, dans des églises, 4, 5, 11 et 12 mai.
Avec l'ensemble instrumental de la Mayenne,
voilà,
de la Mayenne musicale, oui.
Voilà, où vous dirigerez des passions de Bach. Et là, c'est ouvert et là, il reste de la place. Merci à vous.